Vous êtes sur RTL.
En commun.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué. Jean-Michel Cosnio était un homme d'affaires à Moscou. Il a été victime d'un compromat, un coup monté organisé par les espions russes. Vous allez découvrir un témoignage incroyable, digne d'un film américain. Steffi a été victime d'inceste par son père. Son petit frère a connu le même sort. À 12 ans, il a décidé de se suicider. Depuis, Steffi a créé l'association Carl. Son histoire a bouleversé des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Elle est mon invitée. 150 nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire, comme Covidé, PLS, méga bassine. Bertrand Perrier est le grand avocat spécialiste de l'art oratoire. Est-ce que la langue française s'affaiblit? Je lui pose la question. Brian D'Ancona avait 16 ans quand il est parti faire le djihad en Syrie. Ce niçois n'a plus jamais donné de nouvelles. Avant de revenir la semaine dernière au consulat français en Turquie, l'ancien avocat de la famille D'Ancona nous raconte le parcours de l'un des premiers Français à avoir rejoint Daesh. Dylan Thierry était l'une des plus grandes stars des influenceurs. La justice enquête désormais sur lui après 5 plaintes. Son ex-collaboratrice témoigne dans Focus Dimanche et alerte sur les dangers des influenceurs.
RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi.
C'est une histoire incroyable. Jean-Michel Cosnio était un homme d'affaires célèbre à Moscou. Il était notamment propriétaire d'une boîte de nuit juste derrière le siège des services secrets russes. Cette boîte de nuit s'appelait le KM-19, en face du siège redouté du FSB, le renseignement intérieur, l'ex-fameux KGB. Tout allait bien jusqu'au jour où il est victime d'un coup monté. Ça s'appelle un compromat en Russie. S'ensuit alors une chasse à l'homme de la Biélorussie jusqu'au Maroc. Jean-Michel Cosnio est mon invité sur RTL. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour, merci.
Cette histoire est absolument dingue. En studio, vous êtes avec Antoine Isambard, journaliste à l'excellent magazine Challenge. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Vous publiez ensemble Dans l'œil du FSB aux éditions du Seuil. Ce livre se lit comme un ouvrage d'espionnage, un film. On a l'impression de découvrir un nouvel épisode à chaque chapitre. Jean-Michel, c'est en 1996 que vous arrivez à Moscou. Au début, tout va bien. Tout va tellement bien pour vous que vous créez le KM-19, une boîte de nuit juste derrière la Loubianka, le siège du redouté FSB. C'est le fameux siège des services secrets russes. À cette époque-là, votre boîte de nuit, c'est le centre où tout le monde s'est réuni.
Oui, pardon, le KM-19, c'était... Entre-temps, j'avais monté une vingtaine de restaurants, de clubs, l'équivalent des Restos du Cœur, une maison d'édition. Donc, et à l'époque, j'avais quand même des relations avec des gens du FSB. Les clubs précédents, il y avait des descentes de police pratiquement tous les deux mois. Et ce type me dit, ben non, viens dans la Loubianka, personne ne te touchera. En fait, personne ne m'a touché pendant 7 ans, mais quand ils m'ont touché, ils ont mis le paquet.
Antoine Isambard, là-bas, dans ce fameux KM-19 que Jean-Michel Cosnio va créer, cette boîte de nuit située à quelques dizaines de mètres de la Loubianka, toutes les plus grandes stars russes et tous les espions se réunissent.
Oui, c'est la force d'ailleurs du récit qu'on écrit avec Jean-Michel, c'est que dans le KM-19, on avait des hommes politiques russes, le porte-parole Dimitri Peskov du Kremlin était présent, on avait beaucoup d'espions, d'oligarques, d'hommes politiques français, de stars même du cinéma, on parle de Vincent Cassel, de la chanson comme Lady Gaga.
En fait, les gens, les plus grandes stars se rapprochent de votre boîte de nuit et les gens du FSB, les gens des services secrets, viennent passer la soirée chez vous.
Oui, il y avait beaucoup d'officiers venaient qu'à traverser la rue pour venir au club. Il y avait des politiques, des Français, des étrangers. Mais bon, c'était devenu un énorme melting pot, Moscou. La vie nocturne était tellement trépidante que... Tout le monde se retrouvait là. En fait, j'ai monté des boîtes qui correspondaient à rien par rapport à la culture russe. Le club de striptease, le KM-19, toutes les filles venaient comme elles voulaient. Personne ne prenait d'argent sur elles, alors que tous les clubs russes prennent 50%, raquettent les filles. Le principal souteneur de la prostitution en Russie, c'est la milice. Tous les appartements, les bordels, les saunas, ça leur appartient. Ils ont le rôle de souteneur. Non, moi, en fait, j'ai fait un club très ouvert. Les gens disent souvent, on s'y trouve comme à la maison. Le restaurant du KM, c'était fait qu'à l'aide d'un chef français, c'était un restaurant gastronomique.
Il va se passer un moment particulier. Jean-Michel Cosnio, dans ce KM-19, vous allez être victime d'un compromat, un coup monté, une barbouzerie d'État. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est une histoire assez drôle, si on peut qualifier ça d'assez drôle. Un des généraux à la retraite du groupe 6. Le groupe 6 était le... On appelait ça les forces spéciales de Séchine.
Qui est un proche de Vladimir Poutine.
Avait une maîtresse qui était danseuse dans le club et cette danseuse était en couple avec un des managers. Donc au départ, c'est une vengeance. Et à partir de cette descente, ils se sont dit, il y a une possibilité de faire plus. Et c'est là où Flotte Christophe intervient. Il commence à préparer des descentes sur le club, une fois, deux fois, trois fois. Moi, je m'énerve un peu, je vais voir mon protecteur au FSB, qui lui, t'inquiète pas, je vais régler le problème. C'est quand même quelqu'un d'assez haut dans la structure. Il part à Loubianka régler le problème, c'était un vendredi, et le lundi, boum, ils descendent partout, ils descendent chez moi, ils arrêtent les 13 managers du club. Et en fait, Flotte Christophe s'est vexé qu'un petit Français puisse se permettre de lui passer au-dessus de la tête, lui qu'on appelle l'éminence grise. Et donc, tout démarre comme ça.
Et on vous reproche quoi ?
Flotte Christophe m'a fait inculper de complicité d'espionnage, complicité de terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'en fait, l'inculpation des flics, c'était bidon. Ils ont arrêté deux prostituées, d'ailleurs payées par la police avec de l'argent marqué, et complicité de trafic humain. Et quand ils sont descendus chez moi, ils ont trouvé un petit sachet d'herbe de 5 grammes. Ils m'ont inculpé de trafiquant de drogue internationale. Donc tout ça, c'était bidon. Mais avec l'inculpation d'espionnage, personne n'a pu m'aider. C'est une chape de plomb.
Ouais. Anthony Zambard, je pose cette question devant Jean-Michel Cosnio, même si j'espère que cette question ne va pas vous paraître déplacée, mais quand on lit ce livre, on se demande si tout est réel. Ce livre, il est écrit comme un roman d'espionnage. C'est assez incroyable, il est passionnant aux éditions du Seuil. Est-ce que vous pouvez comprendre les doutes des lecteurs ?
Bien sûr, non, mais ça peut paraître assez incroyable, mais bon, il y a eu d'autres événements dans le passé. Il y a un autre bouquin dans les geôles de Sibérie qui a donné lieu à un film récemment avec Gilles Lelouch, qui était aussi une histoire un peu abracadabantesque. Et là, ce qui est fort avec, je trouve, ce témoignage de Jean-Michel, qui encore une fois est véridique, parce que voilà, moi j'étais aussi là pour faire un boulot de vérification des sources et de ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, Jean-Michel était l'un des Français, je dirais peut-être même le Français à un moment donné, qui a été le mieux introduit à Moscou, ou en tout cas qui voyait toute une faune, on en a parlé tout à l'heure, qui était assez variée et très haut placée, ce qui a pu lui servir et à se bâtir un carnet d'adresses et un réseau très important, qui a été utile d'ailleurs aussi paradoxalement dans son procès, dans l'affaire qu'il a vécu, mais qui aussi à rebours l'a un petit peu impacté et s'est fait des ennemis et des gens qui ont voulu également sa peau.
Antoine Isambard, ce monsieur, ce Oleg Fektistov, j'espère le prononcer bien, en plus d'être un patron du FSB, c'est aussi, on le disait il y a quelques secondes, un très très proche d'Igor Sechin, le compagnon historique de Vladimir Poutine. Ce Fektistov, qui est l'un des hommes les plus puissants du FSB, c'est monnaie courante en Russie, c'est compromat.
Oui, c'est monnaie courante. C'est vrai qu'on l'a vu souvent et je dirais on l'a montré dans l'ouvrage et plusieurs sources nous l'ont dit. C'est vrai qu'à partir de la prise de pouvoir de Vladimir Poutine, il y a eu un renforcement du pouvoir de ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire les forces de sécurité, d'espionnage, qui ont mis la main sur tout un tas de business qui étaient assez juteux, notamment dans l'énergie, dans le pétrole, dans le gaz, et sont intéressés aussi à des business qui marchaient très bien, et c'était le cas de Jean-Michel. Ses restaurants et son club marchaient très bien. Il y avait du succès et ça a attiré finalement une sorte d'appât du gain de certains au sein du FSB, et tout a été un peu mêlé. Il y a eu d'une part, c'est vrai, cette affaire-là avec une sorte de vengeance initiale, mais en même temps, côté Fokistov, une volonté de prendre la main sur un business qui marchait bien. Et ça, on l'a vu, qu'il y a une porosité très forte en Russie entre les services de sécurité et le monde des affaires, et avec souvent une corruption qui est très forte, des taxes que doivent verser des patrons de grands groupes aux gens du renseignement. Et ça a été l'incarnation, on l'a vu à plusieurs reprises ces dernières années. Mais c'est vrai que là, Jean-Michel a été vraiment, on va dire, la victime, et probablement la victime française depuis très longtemps, la plus importante et la plus impactée par cette férocité des services russes.
Jean-Michel Cosnio, on vous arrête dans votre appartement, on vous dit que vous êtes un espion étranger. Comment vous réagissez ? Qu'est-ce qui se passe dans la foulée de cette arrestation ?
Au départ, je ne suis pas inquiet.
On est en quelle année d'ailleurs quand vous êtes victime de ce compromat ?
2016 au départ, oui.
Il se passe quoi dans les heures suivantes ? On vous arrête, comment ça se passe ?
Oui, on m'a arrêté, j'ai passé une vingtaine d'heures à être interrogé, ensuite on m'amène en prison et je suis resté là 48 heures, et ensuite on m'a emmené devant un juge et le juge m'a ordonné la porte d'un bracelet électronique, et donc je suis pas retourné en prison à ce moment-là.
Il va s'en suivre une cavale ? Vous allez devoir vous enfuir. Oui. Et là, il y a un voyage incroyable en Biélorussie, un voyage presque homérique.
Oui, en fait, donc, je suis resté avec le bracelet pendant 10 mois. Ensuite, je pars à l'hôpital, j'ai attrapé une pneumonie. Pendant que je suis à l'hôpital, la police cambriole mon appartement, ils me volent une grosse somme d'argent, toutes mes montres, etc. Donc ça m'a un peu énervé. Et là, je me suis dit, je vais partir. Donc, j'alerte certains contacts, quelqu'un qui s'occupait de ma sécurité, un ancien des forces spéciales. Et donc, on monte l'opération. En passant par la Biélorussie, jour de Noël. Donc j'avais une perruque, je devais passer par l'hôpital pour m'enfuir de l'hôpital. L'hôpital, quand les urgentistes viennent à la maison, ils ne veulent pas m'envoyer à l'hôpital, ils me font un shoot de tranquillisant. Donc j'étais déjà à moitié en train de dormir. Et je dis, maintenant, il faut qu'on parte d'ici. Donc on est parti en voiture jusqu'en Biélorussie. Biélorussie, on avait des contacts avec un garde pour qu'il me laisse passer. Et je m'en suis pas à la Lituanie après.
Et tout ça va durer combien de temps ?
Fait 14-15 heures de voiture. Ensuite, bon, ça s'est un peu mal passé en Biélorussie puisque je n'avais pas de visa biélorusse. Donc, j'ai pas pu prendre un bus pour passer la frontière. Donc, ils m'ont gardé environ 4-5 heures dans un petit cabinet. Là, je me demandais qui allait venir me chercher, le FSB ou les policiers qui m'amènent de l'autre côté. Finalement, ça s'est bien passé. Donc, les gardes biélorusses, à l'époque, de toute façon, ils détestaient les Russes. Ils les détestent encore. Ouais. Mais sauf que maintenant, ils en ont beaucoup plus peur.
Et vous allez arriver au Maroc?
J'y reste 4-5 mois. Et je décide de partir en Thaïlande. Et là, en passant la frontière, Interpol m'arrête. Le dossier Interpol était assez délirant.
Antoine Isambard.
Oui, on était à une époque quand Jean-Michel donc, est arrêté au Maroc à cause d'un mandat Interpol finalement que vont respecter les Marocains. Ce qui était loin d'être évident parce qu'encore une fois, ce qui était reproché à Jean-Michel était extrêmement vaporeux et pouvait être mis en cause. Et les Marocains finalement ont scrupuleusement respecté ce mandat-là, ont extradé au bout de plusieurs mois, une année Jean-Michel. Et il y avait... alors on était à un moment donné où il y avait quand même des polémiques sur Interpol, qui est la grande police internationale avec un grand prestige. Et il y avait eu notamment quelques affaires, en fait. Les mandats Interpol servaient aussi, notamment quand les Chinois ou les Russes les émettent, à arrêter les opposants. Et donc ça, c'était vraiment propre à Interpol. Ça a fait l'objet de nombreuses polémiques et c'est encore le cas aujourd'hui. Notamment, les Chinois poursuivent beaucoup de Ouïghours à l'étranger et demandent, au nom d'une notice Interpol, de les arrêter en France, en Italie ou ailleurs. Et les Russes, pareil, les opposants à Poutine font l'objet de notices Interpol et certains pays les acceptent, d'autres non. Et là, en l'occurrence, le Maroc, alors que strictement rien factuellement ne laissait penser que Jean-Michel pouvait être répréhensible d'un point de vue légal et que les faits reprochés à Jean-Michel étaient véridiques, les Marocains ont accepté d'extrader...
De le livrer.
De le livrer exactement aux Russes, en sachant pertinemment que derrière, le sort qui pouvait lui être réservé pouvait en tout cas porter atteinte à ses droits humains. Et voilà, fort heureusement, ça s'est plutôt bien passé, même si Jean-Michel a passé beaucoup de temps en prison en Russie. Mais encore une fois, les Marocains là-dessus ont fait l'objet d'une action quand même très critiquable.
En 2019, Jean-Michel, les Marocains vous livrent Russe et c'est une parodie de procès que vous allez vivre.
Au lieu d'être extradé en novembre où j'aurais fait partie du procès et pris une amende de 1 000 $ comme tous les autres, le procès s'est passé sans moi et donc ils m'ont gardé 11 mois. Donc quand je suis revenu en Russie, quand ils m'ont extradé, je suis resté 5 ou 6 mois en prison en plus et c'était extrêmement rapide. J'avais quand même des bons contacts.
Ouais.
Les juges étaient compréhensifs.
Et donc, ils ont compris que c'était un compromat, un coup monté.
Ouais, bah, ils ont compris. On les a. Aider à comprendre, voilà.
Par des gens au placé, par vos contacts au placé?
Oui, par des contacts au placé, en mettant un peu d'huile dans les rouages, comme on dit, voilà.
Oui, on a compris, en tout cas, voilà. De l'argent. Vous êtes revenu en Russie depuis?
Ah non, de toute façon, je n'ai pas le droit de redemander un visa avant 5 ans. Donc, je n'ai pas été déporté, mais je suis resté vivre à Moscou après qu'on m'ait libéré 2-3 mois sans visa, sans carte de résident. Donc, c'était un délit. Donc, ils m'ont donné une interdiction de visa de 5 ans, mais je n'ai pas l'intention d'y revenir. Surtout quand le livre va sortir.
Dans ce livre, dans l'œil du FSB, il y a une très très belle préface aussi d'Emmanuel Carrère, il faut le souligner. Les auditeurs peuvent aussi découvrir deux épisodes exceptionnels du podcast Focus consacré au réseau d'influence russe en France. Vous pouvez prolonger ce sujet à travers le podcast Focus parce que, Antoine Isambard, en un mot, il y a beaucoup beaucoup de réseaux russes en France aussi, sur notre territoire.
Oui, on le voit, beaucoup d'espions russes notamment, pas que du FSB, hein, parce que le FSB fait plutôt du renseignement à l'intérieur, mais des gens du GRU, le fameux renseignement militaire russe, qui ont mené des opérations assez musclées en France et en Europe. Aujourd'hui, le directeur de la sécurité intérieure, Nicolas Lerner, a estimé qu'avant la guerre en Ukraine, il y avait à peu près entre 80 et 100 espions russes, et aujourd'hui, parce que la France en a expulsé depuis pas mal, il en resterait environ une trentaine, mais c'est un pays qui est, c'est vrai, est assez actif pour faire du renseignement dans les sphères politiques, dans les sphères militaires et également économiques. Donc voilà, c'est probablement le pays qui donne aujourd'hui, avec la Chine, le plus de fil à retordre aux services de sécurité français.
Un grand merci à vous deux, Antoine Isambard, Jean-Michel Cosnio, d'avoir accepté mon invitation dans l'œil du FSB. C'est passionnant et c'est publié aux éditions du Seuil, pourchassé par les services secrets russes. Un Français raconte, et ce Français, c'est Jean-Michel Cosnio. Et il était notre invité aujourd'hui sur RTL. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. À très bientôt.
Merci beaucoup de nous avoir invités.
Stéphie a été victime d'inceste dans son enfance. Son frère a subi le même sort à 12 ans. Il s'est suicidé. Depuis, sa sœur se bat pour sa mémoire. Comme des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, vous allez être bouleversés par son histoire. Stéphie est mon invitée sur RTL dans quelques secondes.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Sa famille, sa vie a été détruite par l'inceste d'un père. C'est à 11 ans qu'elle décide de briser le silence. Une enfance marquée par des événements difficiles qui aujourd'hui la poussent à témoigner. Stéphie est mon invitée dans Focus Dimanche. Bonjour Stéphie.
Bonjour. Ouais.
Stéphie, j'ai vu votre histoire sur Instagram et j'ai été assez bouleversée. Vous aviez écrit une lettre et donc cette lettre a été relayée par des dizaines de milliers de personnes.
Oui, tout à fait. En fait, le 15 avril dernier, c'était la date d'anniversaire de mon petit frère décédé, Karl. Et depuis plus de 21 mois, la date de son décès, je réclame justice. Pour la première fois, j'ai pris la plume pour demander des excuses à notre gouvernement et une prise de conscience avec cette demande particulière qui est un rendez-vous puisque le gouvernement sait, mais le gouvernement ne se retourne pas et c'est un petit peu ce que je dénonce. Le 29 juin 2021, je rentre chez moi, enfin chez nous, puisque depuis plus de 2 ans, à ce moment-là, j'ai la garde de mon petit frère Karl qui a 12 ans et Karl s'est suicidé. Donc mon monde s'effondre et à partir de ce moment-là, je décide de ne plus me taire et de dénoncer tout ce qu'on a pu endurer et je fais donc état et des faits graves que Karl avait dénoncé avoir subi de l'inceste que j'ai subi de notre père, de la condamnation qu'il a eue à cet égard. Et je crie. En fait, moi, ce que je dénonce principalement, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans l'actualité, c'est les droits du parent. On a quand même un père qui a été condamné pour pédocriminalité, qui, malgré cette condamnation, va obtenir des droits sur son petit garçon qui, à l'époque, avait 2-3 ans. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que la mort de Karl aurait pu être évitée si la justice avait entendu mon frère quand il a demandé à ne plus entendre parler de son père. Or, les magistrats étaient un peu coincés. Notre père n'ayant pas été condamné pour Karl, ni même convoqué à ce jour, eh bien... Il a pu continuer à saisir et saisir la justice, à demander des droits. Et ça a été l'enfer de mon frère.
Qu'est-ce qu'il vous disait de votre père ?
Karl n'a pas parlé de suite, ça a été petit à petit. La première fois, c'est quand il a raconté que notre père avait voulu le forcer à se baigner nu avec des adultes nus également. Et là, notre mère avait voulu déposer plainte et le commissariat avait refusé de prendre sa plainte. Suite à ça, les crises d'angoisse ont été crescendo, au point que Karl parlait de se suicider avant que notre maman ne se suicide elle-même en 2019. Et quand notre maman se suicide, Karl raconte des gestes plus que déplacés, donc on dira que c'était des attouchements. Karl raconte des choses très perverses, donc c'est vraiment de l'inceste, enfin c'est cruel. Et Karl, donc là, à ce moment-là, il est entendu hein, par les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre décident de classer avec le parquet. C'est pas suffisant. On se demande ce qui est suffisant à ce moment-là, mais ça ne l'est pas, semble-t-il. Oui. Donc j'obtiens néanmoins sa garde, mais avec toujours la menace du père et de ses droits, que je dois consulter tout le temps et qui refuse tout pour faire obstacle au quotidien de son fils. Donc les papiers, la santé, l'école, enfin c'est un véritable enfer. Ensuite, l'été 2020, donc à ce moment-là, j'ai la garde de Karl encore. Karl me fait des révélations... d'agression sexuelle plus. Donc là, je l'amène déposer plainte. Et c'est de cette plainte dont je fais notamment mention très souvent sur les réseaux, qui est en date de septembre 2020. Et plainte pour laquelle, à ma connaissance, notre père n'a ni été entendu, ni placé en garde à vue, et elle n'est à ce jour ni classée, ni instruite. Et ce monsieur qui est notre père, faut savoir aujourd'hui, je pense que c'est très important, qu'il est seul avec 2 enfants. Puisqu'on a un demi-frère et on a aussi une demi-sœur, pas 2 ans, mais la fille de sa compagne, à l'âge qu'aurait eu Karl aujourd'hui, soit 14 ans. Et cette jeune fille, elle a appelé le 119 en 2020 et pour dénoncer des faits de notre père et ça a été classé également.
C'est à quel âge, Stéphie, que vous avez été victime pour la première fois d'inceste de la part de votre père ?
Depuis le plus jeune âge, en fait. Moi, tous les souvenirs que j'ai de lui sont très bizarres. Mais là où je prends vraiment conscience que c'est au-dessus de tout et puis surtout que je m'en sortirai pas si j'en parle pas, c'est quand j'ai 11 ans. Parce que cette fois-là, ce soir-là, il va plus loin que les autres fois. Et j'ai ce déclic, et surtout celui de me dire, il faut que je parle à maman. Sauf que ma mère ne me protège pas. Elle dit qu'on va rester là et qu'il va falloir se taire pour protéger mes frères. À ce moment-là, elle est enceinte de Karl.
Oui.
Ma mère ne prend pas donc de suite le parti de me protéger. Pendant quelques temps, j'ai été placée en foyer. Donc là, j'ai connu la misère sociale et une autre forme de violence. Et en fait, je retourne vivre chez elle juste pour 1 an, là, de ma terminale, parce que j'avais 2 ans d'avance à l'école. Et là, je découvre une maman autrement. Mais c'est finalement bien plus tard, quand je vais moi-même devenir maman, donc en 2014, que je me rapproche d'elle. Et que là, je découvre petit à petit, et vraiment petit à petit, mais à quel point elle va mal. Je découvre que ma mère a des problèmes d'alcoolisme, qu'elle est démunie. Le problème, c'est que notre père n'a fait 1 an de prison. Et quand il est sorti, elle a dû se débrouiller seule avec lui. C'est-à-dire subir ses menaces, son chantage, toujours ses histoires d'argent, etc. Et en fait, quand Karl a commencé à son tour, parce que Karl, à la sortie de prison de notre père, a dû aller chez lui un week-end sur deux la moitié des vacances, a exprimé un certain mal-être de plus en plus vif, des crises d'angoisse, des vomissements, eh bien, elle a été démunie. Et en fait, en avril 2019, je propose à ma maman d'emmener Karl en vacances avec ma fille. Et en fait, on apprendra, même pas au milieu de ses vacances, que notre mère est décédée, qu'elle s'est suicidée. Et on est rentré en France de toute urgence. À partir de là, ça a été 2 ans de guerre judiciaire avec notre père pour lui faire entendre raison et qu'il laisse Karl grandir à moi puisque c'était sa volonté.
Vous aussi, vous avez fait une tentative de suicide ?
J'avais même pas 15 ans, mémoire. Depuis, j'ai perdu 2 frères, 1 mère. Et j'ai beaucoup de raisons de penser noir. Et je crois qu'au contraire, il faut se battre pour vivre et que ce n'est pas une option.
Aujourd'hui, vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
Vous êtes maman ?
Je suis maman d'une petite fille de 8 ans. J'ai cette chance de vivre par-delà l'amour et la mort n'arrête pas l'amour, oui.
Quand vous avez annoncé à Karl la mort de votre mère, il a répondu quoi ?
Je t'en supplie, Stéphie, protège-moi de papa. Je t'en supplie. Je veux vivre avec toi.
Il était comment, Karl, après le décès de votre maman ?
Karl était tétanisé. Karl pensait que notre père, à ses 18 ans, dans le pire des cas, il viendrait le trouver pour le tuer. Mmh. Et il lui a dit d'ailleurs, il a dit, Jésus dans les yeux, pour moi t'es mort.
Aujourd'hui vous faites valoir vos droits parce que vous espérez qu'il y ait une justice pour Karl. Pourquoi vous vous battez aujourd'hui ?
Si je me bats autant pour Karl, c'est qu'au-delà d'être mon petit frère et un fils de cœur, clairement, Karl c'est un enfant sur 10 en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un enfant sur 10 en France est victime d'inceste. C'est pour ça que j'ai créé l'association Karl. Moi, je demande à être entendu, reçu par Monsieur Macron et son gouvernement, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut écouter les bonnes personnes. Je regrette d'être cette bonne personne, je ne l'ai pas choisie. Mais force est de constater que je suis très à même d'en parler. Et j'estime que se retourner sur l'histoire de Karl, c'est aussi adresser un message d'espoir aux autres victimes. Et leur dire « je vous vois, je vous crois ». Et vous n'êtes pas seul. Parce que si Karl s'est suicidé, c'est qu'il a pensé qu'il était réduit et condamné à ne jamais être cru.
Comment vous trouvez la force de surmonter toutes ces épreuves ?
L'histoire de ma vie, c'est une chaîne de mains tendues. Ceux qui ne me devaient rien ont tout fait pour moi et ceux qui me devaient tout n'ont rien fait pour moi. J'ai cette chance d'être entourée d'amis en or et au-delà de ça, de pouvoir toujours compter sur l'aide d'inconnus. C'est-à-dire que, certes, je n'ai pas encore ce rendez-vous à l'Élysée, mais j'ai quand même des milliers d'humains qui me soutiennent.
On rappelle votre ambition de rencontrer le gouvernement, de rencontrer la secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Charlotte Caubel, à rencontrer Emmanuel Macron et surtout à vous battre pour l'association de votre frère qui s'appelle l'association Karl. Voilà, vous pouvez suivre l'association Karl sur Instagram. Merci à vous d'avoir témoigné sur RTL. Merci encore, Stéphie.
Merci, au revoir.
À 16 ans, un jeune niçois avec une simple carte d'identité est parti faire le djihad en Syrie. Pendant 10 ans, il a disparu des radars avant de réapparaître la semaine dernière devant le consulat français en Turquie. Est-ce qu'il faut le rapatrier en France ? Je pose la question à l'ancienne avocate de la mère de cet homme dans un instant sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Brian D'Ancona avait 16 ans quand il est parti faire le djihad en Syrie. Ce niçois n'a plus jamais donné de nouvelles avant de revenir la semaine dernière au consulat français en Turquie. Plus de nouvelles depuis 10 ans et il est revenu comme ça. Bonjour maître Samia Maktouf.
Bonjour monsieur.
Vous êtes l'ancienne avocate de la maman de Brian D'Ancona. Tout d'abord, c'est complètement fou. Comment un adolescent de 16 ans a pu se rendre en Syrie il y a une dizaine d'années avec une simple carte d'identité.
C'est très exactement l'objet du recours que j'avais intenté contre l'État français. Un mineur censé être protégé par l'ordonnance de 45 qui exige que l'État protège ses enfants mineurs. Il s'est rendu sans bagage, sans passeport, avec une simple pièce d'identité. Il faut quand même rappeler le contexte, c'est qu'à l'époque, l'ancien Premier ministre, M. Valls, avait décrété que un enfant n'a plus besoin d'autorisation parentale pour voyager. Mmh. Et de ce petit, cette brèche que tous les djihadistes se sont enclenchés pour partir en Syrie.
Vous avez défendu sa mère pendant plusieurs mois, plusieurs années. Elle a porté plainte contre l'État français. Pourquoi ?
Pour éveiller les consciences, parce que vous avez rappelé à l'instant que nous étions en 2013. C'était le début de la vague du fléau. Et c'était très important que l'État français se mobilise. Mmh. C'est une mère catholique dont le fils s'est converti. Elle n'avait aucune notion comment décoder le comportement d'un enfant endoctriné. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marquée. Elle m'a dit « Le terrorisme est rentré par l'ordinateur ». Il a quitté la France pour aller combattre auprès d'un groupe djihadiste.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, ce voyage, pour lui il y a une dizaine d'années ? Comment il a pu se rendre de Nice à la Syrie, à Raqqa, à rejoindre l'État islamique? Par quoi il est passé?
En fait, c'est vraiment invraisemblable et à la fois facile. C'était le lendemain des fêtes de Noël. Il a demandé à passer la nuit chez son ami, ce que la mère a accepté parce qu'elle connaît la famille, elle connaît l'enfant. Et à très très tôt, début de la matinée, elle a appris par un SMS que son fils était parti. Alors, comment il est parti? L'autorisation parentale venait d'être abrogée. S'est présenté devant la police de l'aéroport et avec un billet qui lui a été envoyé ou que sais-je, et il a quitté paisiblement vers la Turquie. La Turquie, à l'époque, ne collaborait pas. Et d'Istanbul, ces enfants-là sont intégralement pris en charge.
On attend les enfants à la sortie de l'aéroport, enfin les adolescents.
On les achemine jusqu'en Syrie. On les prend en charge financièrement. On les conduit. Tous n'ont pas combattu. Tous n'ont pas tué. Mais il y a une idéologie, je dirais, extrêmement grave, qui est instauré, qui est inculqué à ces enfants-là.
Pendant 10 ans, il va disparaître des radars. On ne va rien savoir de la vie de Brian d'Ancona en Syrie. Il y a 4 ou 5 ans, l'État français, est-ce qu'il a perdu dans cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire?
Attendez, moi je considère que l'objectif poursuivi par Madame d'Ancona a été atteint. Pourquoi? Parce que depuis, l'État français a rétabli l'autorisation de sortie des mineurs, l'autorisation préalable. Vous savez, vous êtes là, si vous avez un enfant mineur, alors que vous travaillez, vous pouvez apprendre le lendemain que votre fils se trouve en Syrie via la Turquie. Et alors que si vous n'avez pas donné avec votre mère, la personne qui a la garde de l'enfant, une autorisation préalable de sortie, eh bien l'enfant, aujourd'hui, et tant mieux, et je ne peux que m'en féliciter, sera stoppé à l'aéroport et ses parents prévenus.
2019, dans un magazine complément d'enquête sur France 2, il déclarait qu'il avait tué des hommes en Syrie. Est-ce que vous savez comment sa mère a réagi à l'époque?
Écoutez, je n'ai pas de contact avec sa mère, mais ce que je sais, de l'argumentation qui sera certainement donnée par Brian, qui s'est rendu de lui-même aux autorités, c'est qu'on était sous la contrainte. Les gens de cette Katiba étaient juste derrière, avec des fusils, avec une menace, et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ça, c'est l'explication qui est majoritairement donnée par les djihadistes qui rentrent. Et je vous parle d'expérience, je ne parle pas du cas de Brian.
Maître Maktouf, c'est assez incroyable d'entendre des leaders politiques d'extrême droite et de droite dire on veut les voir rester en Turquie, on veut même les voir morts presque en Syrie, et d'entendre des victimes qui en ont souffert dans leur chair.
Parfait.
Qui ont perdu des proches, qui ont perdu des pères, des mères, des enfants, qui ont perdu parfois des parties de leur corps. Et je suis assez ému de le dire, puisque j'ai suivi l'attentat de Nice, et j'ai parlé avec des victimes de l'attentat de Nice, et ces personnes-là veulent voir rapatrier ces terroristes.
Alors, ces personnes-là, vous faites bien, et je vous en remercie de le mettre en exergue. Aujourd'hui, ces familles-là, non seulement elles veulent voir revenir ces personnes qui avouent d'elles-mêmes dans des vidéos, et encore une fois, je ne parle pas de Brian, qui avouent avoir participé, avoir tué nos otages, nos concitoyens, mais aussi elles veulent voir revenir ces enfants. Donc, non seulement il faut revenir parce que ça va faire avancer les renseignements dont disposent nos services, et pour les enfants, nous disposons en France, et fort heureusement, d'une cellule spécialisée pour accueillir les enfants, et pour les victimes que je suis, il faut qu'ils puissent arriver à une lueur de vérité. Oui. Ça, c'est à ça que sert un procès.
En clair, ils sont moins dangereux en prison en France, ces terroristes-là, que plutôt en Syrie ou en Turquie. Tous les pédopsychiatres, tous les psychiatres disent que ces enfants sont beaucoup plus dangereux quand ils restent en Syrie, quand ils restent là-bas, et qu'ils créent une haine de la France, un ressentiment profond contre la France, que plutôt en France avec leurs grands-parents qui vont leur donner de l'amour. Merci à vous, Maître Samia Maktouf, de nous avoir éclairé sur la situation de Brian d'Ancona. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite de passer un bon dimanche sur RTL. Sans transition, vraiment, j'insiste là-dessus. Est-ce que vous êtes en PLS ou plutôt DTR? Est-ce que vous êtes victime d'éco-anxiété? Tous ces nouveaux mots ont fait leur entrée dans le dictionnaire. Est-ce qu'ils affaiblissent notre langue ou est-ce qu'il faut être moderne? C'est un spécialiste de l'art oratoire qui vous donnera la réponse dans quelques secondes. Ne bougez pas, ça se passe dans Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Covidé PLS, méga bassine, greenwashing, flex office, boboisé, ça vous fait peur, hein. Voici une liste des 150 nouveaux mots qui font leur entrée dans le dictionnaire. Est-ce que la langue française s'affaiblit? J'imagine que vous vous posez la question, et on va poser cette question-là à Bertrand Perrier, le grand avocat. Vous êtes spécialiste de l'art oratoire. Merci de ne pas avoir ghosté mon invitation. Ghosté entre aussi dans le Petit Robert et dans Larousse. Ça veut dire ne plus donner de nouvelles à quelqu'un. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Est-ce que ces 150 nouveaux mots apportent quelque chose à la langue française, Bertrand Perrier?
Il faut bien comprendre qu'un dictionnaire n'apporte rien par lui-même. Il consacre des usages. C'est une photographie de notre langue telle qu'elle est parlée. Mais le dictionnaire n'écrit rien. Il décrit ce qui se fait en réalité.
Comment ça se passe, Bertrand Perrier, le choix de ces nouveaux mots? Comment on fait entrer des terres pour déterminer, covider, greenwashing dans le dictionnaire aujourd'hui?
Eh bien, il y a toute une équipe de lexicographes chez Larousse, chez Robert, qui mettent leurs antennes dans la société, qui regardent les nouveaux mots qui surgissent. Et il y a environ 1000 nouveaux mots par an, ou 1000 nouveaux usages de mots existants. Et puis, il y a une sorte de passoire. Et il y a quelques élus, en effet, qui sont pas les mêmes d'ailleurs chez Larousse et chez Robert. Il y a eu une grande polémique sur Yel il y a quelques années. Yel est entré chez Robert, n'est pas entré chez Larousse. Larousse est un peu plus conservateur et considère que Yel est un usage militant de la langue. Mais donc voilà, il y a une sorte de tamis qui fait que, au bout du compte, 150 mots sont considérés comme ayant à la fois un usage et un usage à venir aussi, qui ne soit pas simplement un effet de mode.
En clair, le dictionnaire, ça doit être une photographie du vivant, de l'époque?
Oui, en réalité, le dictionnaire ne juge pas. Il n'y a pas d'affaiblissement de la langue parce que le dictionnaire consacre tel ou tel usage. Si vous trouvez qu'il y a un affaiblissement de la langue, c'est que notre langue s'affaiblit de notre fait. Mais le dictionnaire n'y est pour rien.
On est responsable, en clair.
Oui, on est uniquement responsable de la langue et le dictionnaire simplement met des grandes oreilles partout et regarde et dit « mais ça, c'est employé et donc ça doit faire partie du dictionnaire ». Et d'ailleurs, parfois, le dictionnaire met que c'est un mot d'argot, que c'est un anglicisme que l'on doit plutôt éviter. Donc le dictionnaire parfois prescrit, mais il prescrit plutôt par exemple des mots français à la place des mots anglais. Vous avez dit greenwashing par exemple, il y a un mot qui s'appelle éco-responsabilité, donc on essaye toujours d'avoir un équivalent français.
Écoutez Bertrand Perrier, vous le spécialiste en art oratoire, comment les lycéens parlaient? C'était en 1983.
Je disais que j'étais dans un mauvais plan et c'était une galère. Alors ça craignait bien, alors je me suis natia. Et puis j'étais rencontré mon gars Joe qui s'assurait bien. Parce que j'étais bien croque de lui, enfin j'étais manquable.
Les jeunes, est-ce qu'ils ne sont pas en avance sur le temps?
Il y a toujours des effets de mode dans la langue. Là, il y a plein de mots qu'on a entendus qui ne sont plus du tout usités. Mais demain, on dira instagrammable, par exemple, qui vient d'entrer dans le dictionnaire. Donc, il y a aussi des mots qui apparaissent et il y a des mots qui disparaissent. Parce que si on ne les utilise plus, eh bien, ils n'ont plus à être dans le dictionnaire.
En l'an 2000, l'une de vos inspirations, le célèbre linguiste Alain Rey, validait l'entrée des mots « tessie » pour « citer » ou encore « adonf » pour « je suis à fond ». Il disait qu'il fallait de la modernité et s'habituer à ces mots-là. Il avait raison à l'époque?
Oui, bien sûr. D'abord, Alain Rey a toujours raison. Ça, c'est le principe de base. Non, mais bien sûr, il a raison parce que lui aussi était très à l'écoute des mouvements de la société. Et donc, en fait, ces nouveaux mots, qu'est-ce qu'ils décrivent? Ils décrivent des mouvements de la société, covidé, éco-anxiété. Ils décrivent des mouvements des entreprises, donc vous avez rappelé greenwashing, SKBM. Et puis, ils décrivent des mouvements de notre vie quotidienne, crush, instagrammable, PLS malaisant. Et encore une fois, on peut trouver ça déplorable parce qu'on n'aime pas ces mots-là, mais le dictionnaire n'est coupable de rien.
Bertrand Perrier, parfois, nos auditeurs, ce sont des parents, des grands-parents. Quand votre fils dit « Maman, je suis en PLS », est-ce qu'il faut lui dire « Non, il faut que tu dises que tu n'es pas très bien, que tu ne te sens pas bien », ou il faut le laisser dire « PLS » ?
La question, c'est à qui il dit PLS. Il y a des moments pour dire PLS et il y a des moments pour ne pas le dire. S'il est avec ses amis, eh bien, il y a un code de langage commun parce que ces modes de langage sont aussi des signes d'appartenance. Et donc, dans un groupe d'adolescents, on dit on est en PLS et on se comprend. Ouais. La question, c'est s'il y a une porosité de l'usage et si, ayant dit en PLS avec ses amis, on le dit à ses parents ou là, pour le coup, c'est moins adapté. Là, il y a une difficulté. Donc, on peut dire à son enfant que tu dises PLS à tes copains, c'est une chose, que tu me le dises à moi, c'en est une autre.
Aujourd'hui, on entend des critiques sur ces nouveaux mots, mais on a vu les mêmes critiques en l'an 2000, je le disais il y a quelques secondes, quand il a fallu féminiser certains métiers. Je pense notamment à sénatrice. À l'époque, on avait raison de féminiser ces mots. Aujourd'hui, ça ne pose plus de questions.
Évidemment, alors le dictionnaire aussi consacre des usages et donc il les estampille, ce qui est important dans les mouvements de société. Et lorsqu'on a consacré le mot sénatrice, autrice, c'était important de reconnaître qu'il y avait un usage, peut-être un peu prospectif à ce moment-là, mais qu'il fallait aussi reconnaître.
L'autre difficulté, et ça vous le voyez souvent, Bertrand Perrier, c'est que ces mots peuvent parfois créer des tics de langage. On entend en mode « j'avoue ». Du coup, tout ça, ce sont des tics de langage qui font du mal à notre langue.
Oui, parce que ce sont des mots qui ne veulent rien dire en réalité. Ils servent
c'est
simplement.
C'est vrai, j'avoue.
Voilà, voilà. Mais même le voilà que je viens de dire. En réalité, c'est ce qu'on appelle la fonction fatigue du langage. Pardon pour ce mot compliqué. En réalité, qu'est-ce que c'est que la fonction fatigue? C'est la fonction du langage qui ne communique rien, si ce n'est d'occuper le silence. Et surtout le du coup. Alors le du coup, il est terrible parce que soit il a un sens causal. Je suis sorti, il faisait froid, du coup j'ai un rhume. Ça, c'est pas de problème. Mais du coup, tu vas bien. Ça veut évidemment rien dire. Si ce n'est simplement peut-être de dire la difficulté à commencer une phrase. Tu vas bien. C'est peut-être difficile d'engager la conversation. Ouais. Mais si je dis, bref, du coup, t'as passé un bon week-end, c'est plus facile.
Un dernier mot, comment nettoyer ces tics de langage quand on est journaliste? Par exemple, on utilise beaucoup le bien évidemment, comme une béquille pour trouver un autre mot, réfléchir pendant une à deux secondes.
En réalité, vous ne pouvez pas vous nettoyer vous-même de vos tics de langage, vous n'y êtes pour rien. Les seuls qui peuvent vous nettoyer, c'est les autres. Ou c'est votre téléphone portable si vous vous écoutez, ou c'est l'émission que vous allez réécouter et vous allez vous apercevoir de ces tics de langage. On a pas tous les mêmes. Moi, j'ai beaucoup eu effectivement, j'espère l'avoir pas trop fait pendant l'émission, mais du coup, évidemment, est toujours en embuscade. Et donc, en réalité, moi, je m'imagine toujours qu'il y a un petit gendarme. Vous savez, c'est comme le radar au bord de l'autoroute où vous dites, ah là là, je le vois venir, le du coup, et hop, je vais réussir à l'éviter.
Du coup, merci beaucoup, Bertrand Perrier. Non, je rigole. Merci beaucoup. Votre venue ne nous a pas fait bader. Comme diraient les jeunes, bader aussi, ça entre dans le dictionnaire. Bader, ça veut dire qu'on n'est pas très bien, qu'on n'a pas forcément passé un bon moment. Eh bien, on a passé un super moment avec vous. Merci à vous de nous avoir élevés dans l'art oratoire. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. En parlant des jeunes, d'ailleurs, Bertrand Perrier, ils font face désormais aux folies des influenceurs. L'un d'eux, Dylan Thierry, était très célèbre, des millions de suiveurs sur les réseaux sociaux. 5 personnes ont porté plainte contre lui. La justice enquête sur des suspicions de proxénétisme et de tentative d'organisation de trafic d'enfants, vous ne rêvez pas. L'ancienne collaboratrice de Dylan Thierry témoigne sur RTL dans quelques secondes. Ne ratez pas ça.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche. RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Dylan Thierry était l'une des plus grandes stars des influenceurs. Ces influenceurs qui donnent des conseils à des jeunes sur les réseaux sociaux. La justice enquête désormais sur lui après 5 plaintes. Son ex-collaboratrice témoigne dans Focus Dimanche, alerte sur les dangers de cet influenceur. Bonjour Sandra D.
Bonjour.
Vous témoignez pour la première fois à la radio de manière anonyme et vous êtes accompagné de Tom Michel, votre avocat pénaliste. Bonjour maître.
Bonjour.
On va tout d'abord présenter l'affaire. Depuis plusieurs semaines, Dylan Thierry, un ex-candidat de Koh-Lanta, est au cœur d'une énorme polémique après la révélation par le rappeur Booba de plusieurs enregistrements téléphoniques aux attaques de longue date sur un présumé détournement d'argent par le biais de son association d'aide humanitaire pour nos enfants. Se sont ajoutées d'abord des graves accusations de proxénétisme, notamment du proxénétisme via le réseau d'influence et un réseau social Mime où il y a des échanges d'images pornographiques. On écoute Dylan Thierry.
La on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la machin, tout ça. On lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bien évidemment, on n'a pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé.
Dans la foulée de ces révélations, un deuxième extrait est diffusé, une note vocale d'un échange entre l'influenceur et vous, Sandra D. Vous étiez son ancienne collaboratrice dans cette association pour nos enfants. Dylan Thierry explique comment il compte organiser un trafic d'enfants et c'est choquant.
Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe.
Sandra D, vous étiez la collaboratrice de Dylan Thierry dans cette association. C'est à vous qu'il a envoyé ces notes vocales. Comment vous réagissez quand vous recevez ces messages ?
Je tombe des nues. J'ai tout de suite peur du personnage. Et je me dis dans quel bourbier on est tous dans cette association et qu'il faut partir très vite. À partir de là, j'essaye de le dissuader gentiment parce que je sais qu'il est dangereux, quelqu'un qui vous parle comme ça du jour au lendemain. Et il écoute, hein, il me dit « Ok, je ne vais pas le faire parce que je pense qu'il a essayé d'avoir un appui de quelqu'un, en l'occurrence moi, et je ne voulais pas rentrer là-dedans. » Et voilà, et il refait ça à chaque fois, avec les autres audios qu'on a écoutés, où à chaque fois il demande, ou l'audio de mime, il me demande directement de faire des contrats et des factures. Et là, je lui dis catégoriquement non, parce que là, ça m'implique vraiment directement. Et à partir de là, je prends la décision avec les équipes de l'association de porter plainte.
C'est-à-dire que vous allez prendre une décision lourde. Vous étiez une amie de Dylan Thierry. Vous le connaissez depuis longtemps. Vous l'avez suivi dans ce projet d'association d'aide humanitaire. Pour que les auditrices et les auditeurs de Focus Dimanche comprennent, il avait créé cette association avec vous. Et en clair, il venait en aide à des enfants à Madagascar, des enfants en situation très difficile. Il venait en aide à des parents. Il donnait de l'argent. Et finalement, on découvre que tout ça ne repose sur rien, qu'il y a du détournement d'argent. Maître Tom Michel, quand votre cliente Sandra D vient vous voir et vous explique qu'elle a participé à cette association, qu'elle a essayé d'aider des gens à Madagascar et que finalement elle se retrouve face à ce Dylan Thierry qui a organisé tout ça, ce que vous découvrez à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas qu'une plainte. Il n'y a pas que la plainte de votre cliente Sandra D. Il existe déjà plusieurs plaintes sur Dylan Thierry.
Je découvre un personnage que je ne connaissais pas, j'imagine comme certains auditeurs d'RTL, qui est extrêmement puissant puisqu'on parle de plusieurs millions d'abonnés, extrêmement suivi. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Ce monsieur Dylan Thierry, il parle quotidiennement à des millions de gens. Et c'est justement grâce à sa célébrité, grâce à ses millions d'abonnés, qu'il va pouvoir réunir des centaines de milliers d'euros dans un cadre humanitaire, dans une mise en scène humanitaire.
Il est toujours présumé innocent, bien évidemment, avec toutes ses plaintes, présumé innocent, accusé de détournement de fonds. On parle de combien de centaines de milliers d'euros ?
On parle d'une somme autour de 300 000 euros.
Un homme qui s'était illustré par le passé avec des propos très choquants, notamment sur la vente de compléments alimentaires et des compléments pour lutter contre le cancer, avec une phrase qui est restée légendaire. On peut en rire aujourd'hui, mais il a essayé de vendre ça à des gens. C'était quoi la phrase ?
On peut en rire, c'était des compléments alimentaires pour lutter contre les cellules, je cite, cancérigeuses.
Un homme qui disait, si vous êtes atteint de leucémie, de cancer, n'allez pas vous faire soigner, la chimiothérapie, ça ne marche pas, il faut aller plutôt utiliser des compléments alimentaires, notamment ceux-là qu'il mettait en vente, c'est ça ?
Exactement, il mettait en vente, c'était bien sûr n'importe quoi, une espèce d'eau sucrée, ça n'a rien à voir avec les propriétés qu'il lui prêtait, et c'est aussi pour ça que nous, au-delà de l'affaire judiciaire qui est en cours, on appelle les réseaux sociaux, et notamment Meta France qui gère ces réseaux sociaux.
Meta France, c'est Facebook en clair.
C'est Facebook, c'est Instagram, l'ensemble de ces réseaux-là où il agit. On les met en demeure un moment de réagir. On ne peut pas dire n'importe quoi quand on a des millions d'influenceurs. Il y a des jeunes qui écoutent ça, il y a des jeunes qui croient ça.
Sandra D, vous l'avez connu, vous avez travaillé avec lui, c'était un ami, Dylan Thierry. À un moment, vous n'avez pas dit stop, vous n'avez pas dit c'est plus possible, je ne peux pas continuer à être assise à côté de lui.
Justement, nous on était engagés dans l'association, on voulait continuer notre rôle de bénévole et de faire au mieux pour les dons des gens. On savait qu'il y avait des dons sur la cagnotte, sur les comptes de Dylan, et on ne voulait pas lâcher à cause de ça. Mais effectivement, il s'est passé plusieurs choses.
Vous n'aviez pas de doute ?
On n'avait pas de doute.
Sur les détournements de fonds, au départ, vous n'aviez pas de doute.
On n'avait pas de doute du tout. Pourquoi ? Parce qu'on attendait les bilans. Les bilans, c'était en fin d'année. C'est quand on a commencé à vouloir faire les bilans. Il nous fallait avoir l'accès au compte et payer un comptable, un expert comptable. Il n'a pas voulu. Et là, on a commencé à avoir des doutes. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a plus de doute.
Il y a une nouveauté dans cette affaire, c'est que vous avez porté plainte vendredi à la suite d'un message de Dylan Thierry, un message posté sur les réseaux sociaux, on l'écoute.
Du coup Sandra, putain, t'as osé quand même partager cette note vocale. Hein. Moi honnêtement, personnellement, alors que je suis quand même je suis un bâtard, tu vois, à certains moments j'ai été bâtard, mais jamais j'aurais mis... Alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille, jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Jamais j'aurais donné ton adresse à Booba, jamais j'aurais donné ton adresse au collectif, jamais j'aurais donné ton nom de famille, jamais j'aurais donné le nom de tes enfants, jamais j'aurais donné le nom de ton mari. Et elle, sans scrupule,
vous voyez la pourriture de la personne, elle envoie des notes vocales comme ça à ceux qui veulent me faire.
Sandra D, vous êtes visée clairement par Dylan Thierry. Il vous accuse d'avoir diffusé ces notes vocales que vous avez reçues et de les avoir données au rappeur très célèbre Booba. C'est le cas ?
On les a données à la police. Les notes audio ont été diffusées par la suite. Malheureusement, il m'accuse sur ça, mais il le sait très bien, puisqu'il a été averti avant tout le monde. Mmh. Avant que les notes audio sortent sur les réseaux, il était déjà averti.
Et d'ailleurs, vous avez porté plainte vendredi, avant-hier, pour menaces et violation de la vie privée. Aujourd'hui, vous subissez une vague de harcèlement en ligne, notamment à la suite de la diffusion de l'adresse de l'une de vos marques. Mmh. Comment vous avez vécu ce message de Dylan Thierry qui ressemble à de l'intimidation ?
Je l'ai vécu clairement très mal, surtout quand il a parlé de mes enfants et de mon adresse. Là, j'ai eu tout de suite peur. J'en ai parlé plusieurs fois à Maître Michel, au collectif. Moi, j'avais peur qu'il m'envoie des gens devant chez moi. Et je pense qu'il a fait ça pour que j'arrête de parler.
Pour vous bailler.
Et que je retire ma plainte. Voilà, ça me fait très peur aujourd'hui. Je reçois énormément d'insultes. Ma marque, on reçoit des insultes sur la marque. C'est une catastrophe. C'est une personne qui est suivie de presque avec 2 millions de followers.
Concrètement, vous recevez quoi là sur les réseaux sociaux ?
Des grossièretés, comme il a dit, pourriture et des gros mots, des noms d'oiseaux encore plus forts. On me dit j'ai hâte d'avoir ton adresse, voilà, des choses comme ça.
Et vos enfants dans tout ça ?
Mes enfants ont très peur. D'habitude, mon fils peut rester à la maison. Quand je suis pas là 10 minutes, il m'appelle tout de suite, il me dit j'ai peur. Ma fille a peur, il ferme la porte à clé, tout le temps, ce qu'on faisait jamais.
Maître Tom Michel, la justice enquête désormais sur l'influenceur après 5 plaintes contre X pour escroquerie, abus de bien-confiance aggravé et détournement de fonds. Qu'est-ce qui va se passer désormais ? Qu'est-ce que vous attendez de la justice avec un homme qui est de nationalité luxembourgeoise et qui vit à Dubaï, c'est ça ?
Exactement. C'est justement le sentiment d'impunité qui était le sien en raison de sa nationalité luxembourgeoise et de sa résidence dubaïote. Nous, ce qu'on attend de la justice, c'est maintenant qu'elle est saisie, qu'elle enquête, qu'elle fasse le tri entre la vérité et ce qui a été dit par Monsieur Thierry. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on espère que la réponse sera assez rapide le concernant, puisqu'effectivement, les menaces continuent. Alors là, il s'est annoncé en retrait de ses réseaux sociaux.
Il a annoncé la fermeture de ses réseaux sociaux.
Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est corrélé avec les différentes actions que nous menons pour la fermeture, mais en tout cas, il annonce son retrait, c'est une première bonne chose. Ensuite, on attend de la justice qu'elle permette à l'ensemble des gens qui ont été lésés par ce monsieur de recevoir la compensation de leur préjudice. Je rajoute, et ça c'est un message pour les auditeurs, parce qu'il y en a certains, peut-être par leurs enfants, ou même eux-mêmes, qui ont été impactés par un influenceur tel que Dylan Thierry, je vous dis, portez plainte, pour une simple et bonne raison. Quand il y a une victime française, les juridictions pénales françaises sont compétentes. C'est pas parce que ce monsieur serait étranger ou vit à l'étranger qu'on ne peut pas porter plainte et que la justice française ne peut pas être saisie. Je rajoute, et c'est la particularité de monsieur Dylan Thierry, que, étant par exemple avocat au barreau de Paris à Bruxelles, je déposerai dans le même temps qu'en France des plaintes et en Belgique et au Luxembourg. Il n'y a aucun problème. On se battra à un moment. Il faut que ce combat soit
partout,
mené.
Partout dans le monde.
Absolument partout.
Et selon nos informations, d'autres plaintes devraient arriver dans les prochains jours. Vous confirmez ?
Je confirme.
Merci à vous, Sandra D, d'avoir témoigné sur RTL. C'est la première fois que vous témoignez à la radio. Vous l'avez fait de manière anonyme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce dimanche sur RTL. Merci à vous, Tom Michel.
Merci.
On suivra bien évidemment les conséquences de l'affaire Dylan Thierry, mais on rappelle une chose, quoi qu'il arrive, vous êtes parents, faites attention, suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec vos enfants et soyez sûr d'une chose, c'est que ça vous concerne. Merci Sandra, merci Tom Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RTL. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque dimanche sur RTL et je vous en remercie. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité tous les dimanches à 13h sur RTL. Et tous les jours sur l'application RTL, ne ratez pas le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, vous retrouvez Liane Folly dans le Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon. RTL, il est 14h.